Bonjour, vous écoutez présentement la voix de Stéphane Boivin, professeur au département de littérature et communication du Cégep de Trois-Rivières. Mais vous écoutez surtout Honoris Causette, un projet de podcast rendu possible grâce au sens de l'initiative de la Fondation du Cégep et son désir de faire rayonner nos étudiantes et étudiants actuels ainsi que nos diplômés. Peut-être que vous savez que de façon plus ou moins récurrente, les institutions d'enseignement supérieur remettent des diplômes honorifiques à d'anciennes étudiantes ou d'anciens étudiants pour souligner de façon prestigieuse leur parcours exceptionnel ou leur implication dans leur communauté. C'est ce qu'on appelle un honoris causa. Bon, notre podcast n'a pas tout à fait le pouvoir de l'honoris causa, mais on a quand même le pouvoir d'organiser une honoris causette. C'est sûr que ça sonne un peu moins glamour ou un peu moins comme un sort qu'aurait gracieusement jeté Hermione à quelqu'un de fort illustre, mais honoris causette, c'est quand même représentatif de ce qu'on veut faire avec notre podcast. Piquer une bonne jasette avec quelqu'un qui est passé par notre cégep et qui vit présentement une vie professionnelle saine et signifiante. Puis pour que ce soit pleinement signifiant, justement, on va être accompagné d'une étudiante ou d'un étudiant actuel du cégep, qui a des points communs avec notre invité, que ce soit en évoluant dans le même programme d'études ou en ayant des intérêts qui recoupent les siens de façon, parfois, étonnamment étroite. Fait que c'est ça. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Bonne écoute. Je vous souhaite la bienvenue au troisième épisode d'Honoris Causette. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Je vous avoue que je suis dans ma zone de confort. On va sauter dans le lac aujourd'hui, un programme qui s'appelle Arts, Lettres et Communication, Option, Littérature, Arts et Cinéma. On a une diplômée du programme qui portait un autre nom à son époque, pas si lointaine, mais à son époque quand même. Donc, c'est une zone de confort pour moi qui enseigne dans ce programme-là, mais en même temps, on sort un peu de la zone de confort du podcast parce que... On avait, dans les deux premiers épisodes, des parcours qui étaient un peu en zigzag, qui se promenaient d'un côté à l'autre. Puis quand on regarde ton parcours, Marie-Andrée, c'est un parcours qui se fait de façon assez unidirectionnelle, qui avance à vitesse grand V. Donc, c'est intéressant de voir quelle particularité ça amène, ce genre de parcours-là aussi. Je vous la présente, c'est Marie-Andrée Levasseur qui est avec nous, que je connais un petit peu en plus, donc c'est vraiment agréable de la retrouver dans ce contexte-là. Marie-Andrée, là, elle s'est inscrite au LAC il y a plusieurs années. En fait, je l'ai à quelque part, cohorte 97-99, donc dans l'autre millénaire, il faut bien le dire. Puis, elle a un parcours impressionnant à l'université, puis aujourd'hui, elle occupe un poste, puis c'est plus qu'un poste, c'est même un rôle, je trouve, dans la culture trifluvienne, qui est d'être directrice des arts visuels à Culture Trois-Rivières. Donc, ça inclut un paquet de responsabilités, on va le dire comme ça, qu'on va pouvoir éclaircir tout au long de l'entrevue, de la discussion. Puis, tu sais, ce que ça va permettre de voir, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un intense passionné de l'art visuel pour avoir croisé ton travail si on se promène un peu dans les rues de Trois-Rivières. Puis, je l'ai mentionné, c'est une discussion, c'est vraiment important de le dire. Puis, on t'a jumelé avec une étudiante que j'apprécie beaucoup, que j'ai eue aussi dans ma classe, qui s'appelle Maxime. Salut, Maxime.
Allô.
Allô. Donc, Maxime, puis... Le jumelage, il est le fun parce que Maxime, peut-être qu'elle ne sait pas autant que toi à ce moment-là où est-ce qu'elle veut aller directement, mais Maxime, c'est une élève douée puis qui refuse jamais les défis intellectuels qu'on lui propose en tant que prof. Donc, peut-être qu'elle ne sait pas exactement directement où est-ce qu'elle s'en va comme toi tu le savais, là, comme toi tu avais l'impression de le savoir, mais elle a tout le potentiel pour que... Quand on va le décider, bien, ça va avancer aussi à vitesse grand V. Fait que voilà, je vous présente une à l'autre, puis j'espère que ça va être agréable. Moi, j'ai bien confiance. Je vais lancer la balle au jeu, si ça ne vous dérange pas. Puis, parce qu'il y a quelque chose de marquant là, que tu nous as dit en pré-entrevue, Marie-Andrée, c'est que à la première semaine de cours au cégep, tu as eu un déclic, puis à partir de là, tu t'es dit « je sais où je m'en vais ». Puis, c'est pas mal là que t'es allé, finalement. Donc, on va revenir juste un petit peu avant ta décision ou ce moment déclic-là. Dans quel état d'esprit tu t'étais inscrite au LAC, là, qui est le programme, tu sais, de littérature, art et communication à l'époque où tu étais inscrite. Donc, dans quel état d'esprit tu t'étais inscrite? Est-ce que tu avais déjà un peu cette idée-là ou pas du tout, là?
J'avais toujours eu, il y avait toujours un intérêt en arrière, là, un peu pour les musées, mais en sachant pas exactement non plus quoi, comment. C'était là, mais pas de façon très claire. Et à la fin de mon secondaire, quand il y a eu le temps de s'inscrire au cégep, donc j'ai choisi art et lettres littérature, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas communication, il n'y avait pas cinéma.
OK.
Donc, non, on est dans la art et lettres littérature.
Je dirais pas la préhistoire parce que j'ai des collègues qui enseignaient à ce moment-là, mais OK, c'est correct, ça fait un petit bout.
Dans ma tête, je faisais ce choix-là pour, oui, avoir après ça, aller à l'université. Et j'avais dans ma tête, là, prof français histoire. Sans être très claire, sans être certaine que c'était ça, mais ça a été comme un peu le premier pas pour mon choix.
OK. Puis est-ce que tu voyais comme l'aspect, tu sais, pluridisciplinaire du programme ou tu sais, qui faisait touche à tout un peu puis qui répondait à tes intérêts dès ce moment-là?
C'est sûr, je me souviens que, tu sais, d'avoir un peu une idée aussi de la liste des cours, puis de ce qui allait être abordé, tout ça, tu sais, pour moi, c'était vraiment super intéressant, tu sais, autant en cinéma aussi, tu sais, la lecture. Bon, c'est sûr, c'était vraiment l'écriture, la littérature qui était le highlight, si je peux me permettre, là, de par rapport à mon choix. Mais après ça, oui, c'est comme j'ai dit en pré-entrevue, première semaine, tu sais, j'ai tellement là, que j'ai l'impression, mais là, je suis pas certaine que c'est ça. Mais, tu sais, exemple, première journée, tu sais, première semaine, première journée, premier cours, on dirait que c'était comme, je l'ai su, tu sais, c'est dans la première semaine, assurément. Quand je suis rentrée au cours d'histoire de l'art, tu sais, j'avais hâte parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis je me souviens d'avoir eu le déclic, d'être sortie de là en disant, oh, c'est ça que je veux faire, c'est histoire de l'art. Il n'y a plus de prof de français histoire, c'est histoire de l'art. Puis là, j'étais comme, j'étais focussée là-dessus dès la première semaine. Ça a vraiment été plus gros qu'un déclic, là, je dirais, là. Puis rapidement, j'ai comme regardé un peu avec histoire de l'art, qu'est-ce que ça pouvait, qu'est-ce qui pourrait m'amener où. Puis j'ai rapidement compris que je pouvais, enfin, j'avais peut-être trouvé le chemin pour me rendre dans les musées. Fait que clairement, ça a été ça, le déclic là, de cette première semaine-là. Puis dans les différents cours qu'on avait, on aura l'occasion avec les questions que vous allez me poser d'en reparler, mais je me souviens aussi beaucoup que cette espèce de toucher un peu à tout de différentes façons, par différents moyens, d'avoir différents contacts avec différentes formes d'art m'a beaucoup amené à un éveil. Puis c'est quelque chose qui a vraiment été très forgeant là, pour moi.
Puis, fait que t'avais un intérêt, mais t'avais pas des connaissances à la base qui t'amenaient automatiquement vers là, avant cette première expérience-là, mettons, là.
Non, tu sais, moi, au secondaire, j'ai fait le programme d'éducation internationale. Donc, tu sais, c'était évidemment ouvert sur le monde, sur les cultures, etc. Et puis là, ça ramène loin, là, mais tu sais, c'est comme gênant de dire ça. J'étais dans la première cohorte, tu sais. On est comme les premiers finissants. Ça me met de l'âge, là. C'est cool.
Puis oui, bon, ien, tu sais, c'est ça. Nous, on a mis l'emphase là, sur comment c'était un déclic, là, puis que dès le premier cours, là, ça a été comme une révélation. Mais aussi, tu as mentionné que ce que tu avais apprécié au lac, c'était aussi le fait que ça soit un peu touche-à-tout. Tu sais, parce qu'on a comme un peu le parallèle entre, OK, je sais que c'est exactement ça que je veux faire, mais est-ce que le fait, comme tu as mentionné, là, que ça soit touche-à-tout, puis qu'on aborde l'art par différentes façons, puis par différents moyens. Est-ce que c'est ça qui a pu te dire, parce que tu aurais pu, disons, aller en art visuel ou tu sais, te concentrer plus sur ce qui a été ton flash, mais tu sais, c'est quoi dans le fond qui fait que ce programme-là, qui est quand même assez large, assez pluridisciplinaire, comme on a dit, là, qui fait que c'était quand même intéressant de rester dans cette pluridisciplinarité-là, malgré le fait que tu avais comme compris dès le départ là, où tu t'en allais?
J'ai pas voulu changer, exemple, de branche pour m'en aller en art visuel. Je voulais pas être artiste. Je voulais les mettre en scène, si on veut. Donc, tu sais, exemple, les prestations qu'on a pu faire, des lectures publiques et tout ça à l'occasion, ben tu sais, ça permet aussi ensuite d'être à l'aise devant un groupe, d'être à l'aise devant une salle, d'être à l'aise devant la caméra, ce qui permet après, dans ton métier, de ne pas être stressé pendant 3 jours parce que tu as une entrevue ou une conférence de presse ou une prise de parole. Devant des personnes que tu pensais jamais prendre la parole. Donc, ça l'a amené cette facilité-là, je dirais, tu sais, au niveau, mettons, de la rédaction, tu sais, j'imagine que vous en faites encore pas mal. tu sais, la rédaction comme telle est au cœur de mon travail. Et en même temps, au niveau de la démocratisation aussi, donc, tu sais, on n'est pas dans... C'est d'expliquer les choses pour que les gens le comprennent et que ça soit pas trop long à lire. La syntaxe, quand on fait des expos, des expositions, c'est la même chose. Donc, je pense que, tu sais, on me dirait demain matin, tu as le choix de changer de programme. Puis, tu sais, je prendrais exactement la même chose parce que je pense que tous les cours, d'une certaine façon, il y a des acquis qui te restent après pour la suite des choses, même si c'est pas totalement dans ton cours, ce que tu vas faire comme devoir ou tout ça, tu sais, dans le travail, c'est pas totalement ça, mais il y a tellement des liens à faire que je pense que c'est ça, ça a été quand même des clés importantes.
C'est que c'est pas direct, mais ça offre quand même un bagage plus complet, là, qui est quand même très concret à ce qu'on comprend. Là.
Oui, c'est ça, mais c'est ça, ouais. Sans parler d'être plus complet, parce que le but, c'est pas de parler non plus contre un programme ou quoi que ce soit, mais c'est le côté créatif, tu sais, qui, toi, te rejoignait peut-être moins comme un parcours d'artiste, puis d'approfondir ta démarche, mais plus d'avoir le côté peut-être un peu plus théorique ou d'avoir le recul sur toute cette matière-là. Puis ta vie de programme, ça a été comment? Comment tu te sentais au cégep?
Tu sais, je te ferai un parallèle avant, si tu veux.
Ben oui.
Tu sais, par rapport, comme pourquoi que j'ai pas été aux arts, tu sais, comme une artiste, mon besoin, puis le travail de commissariat quand on fait une expo, c'est un peu comme être écrivain. Je vais vous faire le parallèle comme ça, là. Tu sais, dans l'image, là, je vous dirais que l'expo comme telle, c'est le livre. Les salles, ce seraient les chapitres. Les murs, les phrases, puis les œuvres, les mots. Bon, c'est assez simpliste comme image, mais quand même. Et moi, c'est là-dedans que je me voyais pour, comme je disais tantôt, mettre en valeur le travail des artistes. Fait que c'est vraiment... Okay. Moi, je ne voulais pas être artiste, mais être vraiment celle qui les met en lumière.
Ouais, une animatrice culturelle, finalement. Non? Ben c'est parfait, j'aime ça. C'est parfait, mais je comprends aussi ce que tu veux dire. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une animatrice culturelle derrière tout ça. Pas tant animateur devant la caméra, mais d'animer la culture. Ça, je pense que tu le fais, puis tu l'as fait quand même auparavant. Je reviens quand même avec ma question sur comment tu te sentais, tu sais, au cégep, c'était quoi ton feeling? Qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là, là?
Ben moi, personnellement, je retiens une super belle période, super dynamique. J'ai plein de beaux souvenirs. Je retiens aussi surtout l'effet de gang. Dans le programme, on a été plusieurs là, à être ensemble. Là. On est vraiment comme un noyau, là, si je peux dire. Puis on était toujours assis dans les milieux, au milieu des classes quand on était dans les mêmes groupes. J'ai même souvenir que des profs, ils nous avaient appelés comme ça. Là. Eux autres, c'est le noyau, eux autres, c'est le noyau. Puis ça a été des beaux échanges avec ces personnes-là. C'est des personnes qu'on recroise occasionnellement. Puis c'est comme si la veille, on s'était vus. Ça l'a amené beaucoup d'échanges, beaucoup de co-création aussi, de travailler même des projets en équipe.
de faire plus de projets qu'il fallait en faire de toute façon, tu sais, essayer de vraiment d'amener à aller encore plus loin que ce qu'on nous demandait. Ça a été vraiment, vraiment, pour moi, là, une super belle période.
Oui, on le voit, on le sent, tu sais, quand tu réponds, il y a comme une sorte d'effervescence que tu retiens, ouais. Une espèce de bouillonnement qui ressort aussi dans tes réponses à l'écrit. C'est intéressant. Qui y avait dans ta gang, là, tu sais, proche ou dont tu retiens des bons souvenirs ou à travers tout ça?
On était vraiment plusieurs. Puis, ce que je retiens aussi, c'est que tout le monde a des chemins vraiment différents. Tu sais, une profession aussi différente, mais à quelque part, quand on retourne à l'époque, tu sais, je suis capable de voir aussi, de déceler d'où ça a parti.
Ouais, ouais, c'est cool ça.
Mais ça, c'est. Moi, en tout cas, de mon point de vue, j'ai les pieds dedans en ce moment, là, c'est vraiment une caractéristique du lac. Là, on n'est pas énorme, donc comme tu l'as dit, l'effet de gang, là, il est, je pense, pas mal plus présent que dans d'autres programmes plus larges. Donc ça aussi, je trouve que tu l'as bien souligné, là, puis je suis 100% d'accord avec toi. Là, l'effet de gang est fort parce qu'on n'est pas beaucoup, mais aussi parce qu'on est motivé par des intérêts similaires. Là, tout ce qui est autour de ça, la littérature, les arts et tout. Puis en tout cas, moi, ça résonne avec moi ce que tu dis là-dessus beaucoup. Là.
Oui, il y a la curiosité en commun. Hein? C'est la curiosité par rapport à la culture.
L'ouverture d'esprit aussi. Oui,
c'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est intéressant de voir ça. Puis c'est là qu'un petit programme, des fois, peut avoir ses avantages, si on veut, de pouvoir se retrouver, d'avoir des classes qui sont assez homogènes, avec quasiment tout le temps la même gang autour de nous. Mm-hmm. Fait que ça crée des souvenirs qui sont le fun. Ça crée des souvenirs... Qui nous reste à travers tout ça, parce que le milieu de vie est important aussi au cégep, là. C'est ce qu'on se rend compte aussi avec ce podcast-là. Tout le monde retient, tu sais, leur gang, les gens autour, qu'est-ce qu'ils ont fait, les projets en classe, puis en dehors de la classe finalement, à travers tout ça. Il y avait des professeurs avec qui tu te sentais comme bien, que tu as gardé en souvenir, etc.?
Ben oui, tu sais, j'avoue, la réflexion aussi en lien avec la pré-entrevue, tu sais, m'a amené un peu à me replonger dans tout ça. Oui, il y a des profs que je retiens effectivement, précisément, pour des gestes qu'on, tu sais, des gestes qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qui était même, ce qui transcendait aussi dans leur cours. Il y en a d'autres que, tu sais, je me souviens de certains échanges qu'on a eus avec d'autres. Tu sais, c'est vraiment, je pense qu'à chacun, ils ont quand même réussi à me marquer d'une façon ou d'une autre. Puis je trouve que ça a vraiment nourri, tu sais, l'expérience, mais aussi le après, parce que, tu sais, il y a des profs aussi que j'ai eu à croiser dans mon parcours professionnel. Ouais. Puis ça amène une belle, des beaux échanges aussi, puis le tout ce que ça a pu apporter. Puis tu sais, je me mets aussi à leur place, dans le sens que des fois comme prof, tu sais, on se souvient un peu de la gang ou on se souvient de certains étudiants plus que d'autres. S'il y en a que j'étais contente qu'ils se souviennent de moi, pas parce que j'ai fait des mauvais coups, mettons.
Ouais. Ça doit être très difficile à gérer, là, Marie-André Levasseur, dans une classe. Là, ça doit être le gros chaos, c'est sûr. Moi, j'ai des collègues. Là, je sais qu'il y a des collègues à moi là, qui ont fait partie. J'aimerais ça que tu les nommes. C'est un bel hommage quand même à leur rendre.
Dans les profs que j'ai en tête là, qui me reviennent, il y a Claude Lamy, que maintenant il est à la retraite, je pense.
Oui, effectivement. Ouais. Qui était super impliqué au lac aussi, oui.
Oui, c'est ça, qui était bien tripante. Il y a Maryse aussi. Moi, je suis pas bonne d'un nom.
Maryse Saint-Pierre.
Merci. Marie Saint-Pierre aussi, son côté très, très humain, était très proche de, no, de, en tout cas, moi, je me souviens de notre gang, mais elle devait être proche de tout le monde, mais en tout cas, tu sais, c'est cette proximité-là qu'elle arrivait à développer, puis les liens forts aussi qu'elle a su développer avec certains, je me souviens de ça. Il y a Marie-André Grouac, parce que c'est elle, le premier cours d'histoire de l'art, c'est elle qui le donnait. Il y a Rita Pinchot aussi.
Oui, qui est nouvellement retraitée, donc
ouais. Pour les cours aussi, elle a fait en lien avec l'histoire de l'art, on a eu d'autres cours aussi, puis de façon anecdotique, elle nous faisait un peu toucher à l'univers poétique puis de performance avec son amie Monique Juteau. Je me souviens de certaines des fois que Monique a été invitée. Là, je l'appelle Monique parce que maintenant, je la côtoie aussi parce que je côtoie son mari aussi. Fait que bon, à cette heure, c'est autre chose. Mais je me souviens aussi de ça. Puis à Marc-Claude de Brasseur avec qui ça a été vraiment, vraiment chouette là, de toujours, tu sais, elle était très, très dynamique, très présente. Je disais ça que c'est ce que je me souviens un peu aussi. Ouais. J'ai l'occasion aussi de la croiser occasionnellement.
Vous êtes deux pétillantes, là. Ça doit être assez énergique quand vous vous croisez en même temps. D'ailleurs, je l'ai croisé tantôt dans le corridor, puis je lui ai dit « Hey, je m'en vais parler à Marie-André qui t'a nommé dans son... » Puis elle était contente. Elle a dit « Oh, j'ai un petit frisson. Tu connais sa capacité à frissonner facilement et fortement. » Fait que, ouais, c'est ça. Elle était super contente de ça. Elle était super honorée à te passer le bonjour en même temps. Oui, c'est cool. Puis il y a un autre côté qui fait partie du programme aussi, puis dont tu nous as parlé, c'est les activités, tu sais, qui t'ont permis aussi de toucher peut-être un peu plus concrètement à ce que tu voulais faire dans vie. Est-ce qu'il y a des types d'activités, ce que nous on appelle des mercredis du lac, là, les élèves ont une période réservée à leur horaire, puis les profs, on organise des activités, des conférences, des visites de musées, justement, toutes sortes d'affaires finalement, des projections de films. Puis il y avait ça aussi à ton époque, hein, il faut le dire. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué ou dont tu te rappelles, puis que l'impact que ça a eu justement dans ton parcours?
Il y en a un, je me souviens, puis là, je ne sais pas, je me souviens pas par contre si c'était dans le cadre du mercredi ou c'était journée, ça c'est vague, là, vraiment, je ne sais pas. Mais on était allé au Musée des Beaux-Arts du Canada voir l'exposition de Picasso.
Ouais.
Fait que, pour moi, c'était un super beau souvenir là, de parce qu'à ce moment-là, c'était la première fois que je voyais des œuvres de Picasso en aussi grand nombre, parce que j'en avais vu dans d'autres musées, mais en aussi grand nombre. Fait que c'était,
d'avoir une expo consacrée à ces œuvres finalement, puis organisée de façon à les mettre en valeur, j'imagine. Là.
Puis c'était trippant comme y aller en gang, puis voir ça en gang, puis être plus dans un univers, tu sais, dans notre gang d'amis, il y en a qui étaient plus du côté de l'écriture, d'autres plus du côté de la musique. Là, on était comme plus dans mon univers, si on veut, là, au niveau là. Fait que c'était chouette. C'était un beau souvenir.
C'est cool, ça doit. Mais tu disais qu'il y en avait qui étaient en musique. As-tu quelqu'un en tête, par exemple, dont tu voudrais nous parler?
Dans ma gang d'amis, il y avait le chanteur Dumas. Donc, on était aux premières loges de ses premiers succès. On a eu droit à différentes versions. C'est dans la période où il a fait le festival de chansons Granby. Donc, on était dans les débuts. Puis c'est toujours bien le fun de voir le succès qu'il y a et tout ce qu'il y a comme de nouveaux défis professionnels.
De participer, tu sais, par l'effervescence, sûrement l'avoir motivé aussi à écrire ses premières tunes. Tu sais, il y a beaucoup de référents dans ses premières chansons, fait qu'on sent qu'il est vraiment, tu sais, comme allumé avec la culture qu'il est en train d'apprendre, là. On dirait que ça marque son premier album, fait que, tu sais, c'est intéressant sûrement de voir ça, là, du point de vue de l'intérieur, finalement.
Oui, parce qu'il y a des références dans son premier album, comme tu disais, puis même dans certaines de ses chansons, qui font vraiment spécifiquement référence à des choses qu'on a tous vécues avec lui en même temps, en ayant les mêmes références. Fait que c'est vraiment... ça ramène un peu au avant, puis à tout ce que ça peut avoir comme impact après. Tu sais, sur le coup, quand on est dedans, on s'en rend moins compte, ou tu sais, on en mange, on en gobe, on a. Puis à un moment donné, c'est par après, quand on regarde ça un peu plus tard, qu'on se rend compte à quel point tout ce qu'on a pu avoir comme... avec tout ce qu'on a touché comme au niveau des différents types d'art, etc., ça revient puis ça reste quand même. C'est une belle... ça amène une belle réflexion, puis ça nous amène aussi à comment le programme il peut nous avoir nourris, en fait.
Puis après, là, tu sais, là, le premier choc, là, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu sais, mais après, où est-ce que tu t'en vas, justement? Parce qu'à Trois-Rivières, à ce moment-là, je pense qu'il n'y avait pas tant d'ouverture ou de programme axé sur la muséologie ou l'histoire de l'art directement, hein, je ne me trompe pas.
Inévitablement, partir de Trois-Rivières pour aller à Montréal ou à Québec. Ouais. Moi, j'ai choisi l'Université du Québec à Montréal pour avoir le bac en histoire de l'art parce que le bac en histoire de l'art était plus axé vers l'art québécois. C'était ma volonté de c'était un peu ça qui a orienté mon choix pour le bac. Ouais.
Fait que là, toi, tu sais, c'était Montréal. Est-ce que tu t'imaginais à ce moment-là, tu sais, déménager à Montréal? Est-ce que tu voyais ça comme une étape ou...
Partir pour ne jamais revenir, tout à fait.
Ah ouais, c'était l'exode des cerveaux. L'exode des jeunes cerveaux.
Ah, oh, j'allais pas revenir, là. Voyons donc, revenir en région.
OK, ouais, c'est ça. OK, c'est bon, ça.
Oui, en pré-entrevue, il y avait une question, là, tu sais, qui disait si tu voyais, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à la personne, à l'étudiant? Puis, ouais, c'est ça, je me suis dit, hey, tu me croiras pas, mais tu vas revenir à Trois-Rivières. Je ne m'aurais pas cru.
Puis, est-ce que c'était quoi ta vision, tu sais, à l'époque? C'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois, mettons, en culture à Trois-Rivières ou parce que tu visais, tu sais, Musée national des beaux-arts, puis etc.?
En termes de possibilités d'emploi, de me dire, ouais, tu sais, à Trois-Rivières, tu sais, je voyais les lieux qu'il y avait, tu sais, les gens étaient bien établis, je me disais, avant qu'il y ait comme l'opportunité, tu sais, ça va être vraiment long. Donc, moi, je me disais, bien, à Montréal, il y a plus. Mais tu sais, en même temps, il faut penser qu'il y a plus, puis il y a plus de monde aussi. Puis ouais, quand on est arrivé au bac, dans les premières semaines, c'est ça, c'est toutes les premières semaines, il y a un de nos profs qui a dit, on avait une rencontre là, comme de, je pense, d'introduction, ou je sais pas, c'est pas une initiation, mais... Puis là, il nous parlait, puis il disait, quels sont ceux qui viennent des régions? Fait que là, il faisait lever la main. Quels sont ceux qui viennent de Montréal? Fait lever la main. Fait que en majorité, on était de la région. Là, on provenait de différentes régions du Québec. Puis il nous a dit, le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est qu'après, vous retournez chez vous.
OK, c'est bon. Fait qu'il l'avait déjà ciblé tout de suite. Tes plans, ils se font toujours par la force des choses rapidement, hein? C'est ça, c'est bon quand même.
En l'écoutant, je me suis comme dit, OK, bon, ben c'est peut-être pas bête, je vais voir, je vais rester ouverte aux possibilités. D'abord, je ne vais pas me dire, je vais à Montréal pour rester à Montréal.
OK. Puis ça a été comment après, là, t'as fait ton bac, puis pour aller là où tu voulais aller, il fallait que tu rentres à la maîtrise aussi. C'était pas une maîtrise où c'était facile, hein? C'était contingenté, c'est ce que
j'ai dit? À l'époque, parce que ça dépend des années, ouais. À cette période-là, il prenait 20... J'ai 23 dans la tête, mais c'est peut-être 20 ou 25, je me souviens pas, personne.
Ouais, ouais.
Comme je voulais faire la maîtrise en muséologie, ben comme vous le savez, il y a des musées de différentes disciplines. Donc, les personnes qui veulent aller en muséologie proviennent de tout. Des programmes bio, biologie, enseignement, histoire de l'art. Il y a comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats potentiels.
Là, je me disais... Il y a une concentration, là, c'est pas vraiment juste ceux en histoire de l'art qui, qui s'en vont là directement. Là, on peut penser à des musées d'histoire naturelle ou musées de la guerre ou plein d'autres choses.
Moi, dans ma cohorte, il y avait beaucoup qui provenaient de l'enseignement, de l'histoire. Il y avait une biologiste aussi pour travailler dans les zoos. Donc, la différence, c'est la gestion de la collection. Là, ils vont gérer les naissances et les décès. Mais c'est différent d'une collection de tableaux, par exemple. Je pense que ça a été le stress le plus grand en me disant si ça ne fonctionne pas. Par contre, pour la maîtrise, moi, ce qui m'a aidée, c'est qu'au bac, finalement, je me suis trouvée un emploi à temps partiel à Trois-Rivières, dans une galerie d'art qui s'appelle la Galerie d'art du Parc. Et j'ai travaillé là pendant mes études. Ce qui m'a permis, quand j'ai fait ma demande de maîtrise, bien, j'avais un bon appui de l'équipe de leur part. Et j'avais déjà, parce que la maîtrise en muséologie, c'est une maîtrise professionnelle, donc il y a une année de cours. Après ça, il y a un stage, puis un travail dirigé. Donc, il n'y a pas de thèse ou de mémoire.
Ouais.
Et moi, il y avait déjà un projet qui était dans les cartons, si on veut, puis ça, c'est devenu mon projet de maîtrise. Fait que quand moi, j'ai fait ma demande, j'ai dit que j'avais un travail dirigé déjà. Ça, le sujet serait ça, il y aurait déjà des retombées, puis il y avait en fait déjà une exposition qui était prévue. Fait que tout était comme... C'était ce qui me donnait peut-être des chances d'être acceptée. Donc, j'ai été acceptée, j'ai fait la maîtrise. Quand j'ai fait la maîtrise, je travaillais encore à la Galerie d'art du Parc. Et moi, j'ai déménagé dans la région, en fait, après le bac. Fait que je voyageais et travaillais à temps plein. Donc, ça a commencé mon beat là, de un peu de fou à cette période-là.
Ouais. Vas-y,
tu sais, on parle de contingentement, puis de tout ça, de ce parcours précisément planifié, puis qui s'est déroulé comme ça aussi, là, comme prévu. Mais aussi, tu sais, de le voyagement, là, comme tu viens de mentionner, puis tout, tu sais, puis retour en région, on va à Montréal, vice-versa. Mais c'est tellement linéaire comme parcours, puis, tu sais, comme j'ai dit, ça s'est déroulé comme prévu. Est-ce que à certains endroits, au contraire, ça n'a pas soulevé des remises en question, tu sais, parce que nous, en tout cas moi, à mon âge, je me fais beaucoup dire, tu sais, garde-toi des portes ouvertes, puis des plans B ici et ça, mais là, on a comme pas eu besoin de plan B là ici. Fait que est-ce que tu sais ça, parfois ça a comme fait l'effet inverse de tu sais, c'est, suis-tu trop, est-ce que je sais trop où je m'en vais quasiment, tu sais, c'est surtout vu que c'était contingenté aussi, c'est un peu.
Oui, bien, tu sais, ce que je m'étais dit quand c'était contingenté, je me suis dit, bon, bien, sinon, je vais m'essayer aux études supérieures à l'Université de Laval à Québec, qui n'est pas la même, tu sais. Puis, en fait, c'est parce que la maîtrise en muséologie, c'est une maîtrise conjointe, en plus, entre l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal. Fait que tu ne peux pas t'inscrire aux deux, tu t'inscris à la même. Fait que c'est un ou l'autre des okay. universités. J'en avais pas de plan B.
Pas en tout.
Ben non.
Je me disais,
c'est peut-être ça qui était effrayant de mon point de vue. Tu sais, des fois, on se pose la question, genre, si tu ferais pas ça dans la vie, qu'est-ce que tu ferais?
Tu sais pas.
Bon, ben...
Ben, c'est magique en même temps. Il y a quelque chose de magique ouais, de dire, je fonce, puis je vais, puis... Puis ça va se passer de toute façon, tu sais, sans vouloir être psychopop, là, tu sais, de dire, on y va, puis...
Sinon, j'aurais peut-être fait d'autres choix, là, dans le sens que j'aurais peut-être travaillé plus longtemps, puis après ça, réessayé la maîtrise. J'aurais pas été à la maîtrise, j'aurais peut-être appris sur le terrain, c'est ça, tu sais, il y a comme plein de... Puis en même temps, tu sais, c'est sûr que dans... c'est de dire, je m'en vais, tu sais, je vais être muséologue dans la vie... Tu sais, dans ma famille ou mon entourage, il n'y a pas de muséologue. Tu sais, c'est sûr que là, maintenant, dans ma vie, il y a beaucoup de muséologues autour de moi, mais je ne sais pas. Bon. Mais là, y a-tu des débouchés? Tu sais, il n'y a pas beaucoup de, tu sais, les opportunités d'emploi, tout ça. Puis à un moment donné, moi, ce que je me disais, c'est, ben, il faut un poste. Pas huit.
Ben, c'est ça aussi, c'est que non seulement c'est un plan, mais c'est aussi un plan dans, comme qu'on vient de souligner, un univers un peu pas tout à fait stable, pas tout à fait sûr, là, tu sais, toute la culture et l'art et tout, fait que ça aussi, ça rajoute un peu à la... pas au risque, là, mais oui, tu sais, un peu, tu sais. En effet.
Comment ça s'est passé, justement? Tu sais, ce qui est le fun, c'est que tu évoques quand même le fait que tu y serais arrivé. Hein? Et même si tu n'étais pas rentré, j'aurais pris un autre chemin, j'aurais passé par le terrain aussi, puis c'est pas juste la maîtrise nécessairement qui aurait fait. Puis, tu sais, c'est le fun de voir que tu es bien placé maintenant pour faire des RH, entre autres, là, des ressources humaines, de dire ben go, là, trouve une job dans ton domaine, puis va chercher de l'expérience. Cette expérience-là va peut-être être plus dur à aller chercher sur le coup, mais va être plus payante à moyen terme, mettons, sur le plan de ta carrière.
Tu sais, l'autre chose que je me disais, tu sais, mettons, au cégep, tu sais, quand on disait, moi, je ne recommencerais rien, peut-être que la seule chose que je ferais, c'est d'avoir l'audace. Parce que, bon, à ce moment-là, je me disais, ben voyons, je suis juste au cégep, ils ne me prendront jamais. Fait que, tu sais, l'audace d'aller porter un CV pour avoir un emploi à temps partiel, tu sais, d'été, mettons, là, de cogner, justement, là, à la Galerie d'art du Parc ou à d'autres musées, puis dire, hey, moi, je suis, tu sais, je suis disponible à amener mon CV. Puis moi, je me disais, ben j'ai pas d'expérience, j'ai juste les études, fait que je n'y suis pas allée. Puis, là, pour vivre aussi, tu sais, depuis plusieurs années, avoir des équipes de travail, ben en même temps, des jeunes du cégep, là, on les veut, là.
On veut qu'ils viennent. Ouais, c'est ça.
Fait que, il y a de la place. Tu sais, le conseil que je donnerais, c'est ça, tu sais, s'il y a une discipline ou un milieu qui t'intéresse, sans que ce soit de dire, hey, je fais ça toute ma vie, mais de trouver un emploi qui peut te faire découvrir un peu plus cet univers-là, peut t'amener à te dire, ah oui, OK, c'est là que je vais aller, ou ah, ben finalement, c'est pas ce que je pensais, ou oui ou non, bon, peu importe, mais en même temps, je pense que au niveau du, quand on est au cégep, la possibilité d'aller justement, tu sais, avec différents emplois, tâter un peu le terrain puis voir si c'est vraiment quelque chose qui nous branche. Je trouve que c'est une belle, c'est des belles opportunités que les étudiants devraient saisir. Même si c'est en art et lettres.
Oui, mais c'est ça, mais c'est le fun ce que tu dis parce que comme tu disais, peut-être qu'à ton époque, ça semblait plus fermé, ou alors qu'aujourd'hui, tu sais, t'es à la bonne place pour nous confirmer qu'il y en a de la place. Vous en cherchez du monde, vous en cherchez des cégepiens, des cégepiennes qui vont, tu sais, s'impliquer dans la culture. Puis, tu sais, il y a de la place pour ça, puis il y a des emplois pour ça. Parce que des fois, c'est une insécurité, hein, d'aller, tu sais, de se diriger vers la culture, là. Puis là, t'es la bonne personne pour un peu pallier à ça. C'est le fun.
Tu sais, il y a quand même, c'est ça. Puis, tu sais, ce qui est intéressant aussi avec le type d'emploi, tu sais, ben là, je parle plus pour les institutions muséales, mais, tu sais, la majorité sont ouvertes à l'année, ce qui fait que l'étudiant peut continuer à aller à l'école, puis donner ses dispos, puis travailler, tu sais, selon ses disponibilités. C'est vraiment une opportunité à saisir, je pense, pour aller justement essayer des choses, puis voir des milieux de travail.
Puis, mais avant, là, d'être responsable de toutes ces équipes-là, qu'est-ce qui s'est passé entre la Galerie d'art du Parc, tu sais, justement, puis cette progression-là vers le poste que tu as créé?
Ben dans le fond, à la Galerie d'art du Parc, quand j'étais au bac, j'étais guide animatrice. Ensuite, je suis devenue responsable de l'animation quand j'étais à la maîtrise. Puis à la maîtrise, j'avais comme un projet d'exposition rétrospective, fait que je devais vraiment tout faire le processus. L'inventaire, le choix des œuvres, la mise en espace, le transport des œuvres, accrochage, etc. Deux mois avant que je termine ma maîtrise, il y a un poste qui s'est libéré, ben en fait qui a été affiché comme responsable des expositions au centre d'exposition Raymond Lanier. Et ben moi, j'avais fait, dans le fond, c'était en quelque part février-mars. Puis le septembre précédent, mon expo avait eu lieu comme commissaire. Fait que c'était ma première expo. Puis j'en suis encore très fière. Là. Je pense que ça a été une belle première fois. Puis j'ai postulé. Puis je l'ai eu. Donc, deux mois avant de terminer ma maîtrise. C'était un emploi à temps partiel qui était comme partagé avec un emploi à temps partiel à la Biennale internationale d'estampes contemporaines de Trois-Rivières comme directrice administrative. Donc, j'avais un temps plein avec deux employeurs. Fait que ça faisait mon affaire. Quelques mois après, j'ai eu l'opportunité d'être chargée de cours au Cégep. Donc, j'ai donné deux cours pendant une session.
C'est vrai? Puis c'était en quelle matière? On aurait pu être collègues.
C'était histoire du meuble et...
Hein? C'est en quoi ça? C'est quoi ça?
En design
d'intérieur. Ah, OK, ouais, bon.
Histoire
du meuble. Oui, c'est correct.
Puis l'autre, c'était... Je pense que c'était préhistoire à 1850. Fait que ça, c'était... c'était des étudiants en art visuel.
Art visuel.
Wow, OK, dans deux programmes différents, c'est spécial quand même.
Ouais, ben, il me semble.
Me semble. On n'a pas fouillé, on n'a pas fouillé les talons de paix du cégep là, pour voir.
Puis, dans le fond, à cette période-là, dans le fond, l'automne 2004, j'avais les deux cours, l'emploi à la Biennale et comme responsable des expositions, centre d'exposition Raymond Lanier. C'était un petit peu beaucoup.
Ouais.
Et finalement, un petit peu moins d'un an après mon embauche au centre d'exposition Raymond Lanier, ils m'ont offert un poste à temps plein. J'ai donc laissé tomber la charge de cours et la Biennale d'Estampes. Et je suis devenue à temps plein responsable des expositions. Et de fil en aiguille, directrice du centre d'exposition Raymond Lanier, ensuite directrice des arts du centre d'exposition Raymond Lanier et des arts visuels. Et maintenant, mon titre, c'est directrice des arts visuels à Culture Trois-Rivières. Donc, je gère maintenant le centre d'exposition Raymond Lanier, l'espace Pauline Julien. Je suis responsable de l'art public et conservatrice de la collection des œuvres d'art de la ville de Trois-Rivières.
C'est tout un poste quand même, hein? Il faut le dire, ça ratisse large. Est-ce que dans ce milieu-là, tu es considéré comme jeune pour occuper un emploi de cette trempe-là? Si tu vois là, dans les autres régions, etc., un peu, là?
J'étais considérée jeune il y a...
À l'époque? Oui. Puis maintenant, mais tu l'as déjà été, par exemple. Tu as même déjà gagné... Bon, tu vas être modeste, là. Je sais que tu le diras pas par toi-même, mais tu as même déjà gagné un prix de la relève, tu sais, nationale par... je cherche le nom, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'était quand même, tu sais, impressionnant de le faire aussi à travers un travail en région, tout ça. Fait que... Ben, de un, bravo. Puis de deux, quel swing ça t'a donné là, tu sais, de remporter ce...
Dans le fond, ce prix-là, je l'ai eu en 2009, si ma mémoire est bonne. Dans le fond, ce prix-là est donné à un muséologue en début de carrière avec entre 5 et 7 ans de pratique. Donc, je me disais, oh, si je peux avoir ça.
Oui.
Donc, c'est ça, c'est un dépôt de candidature, puis c'est un jury de pairs qui choisit. Donc, il y a un prix de la relève à chaque année. À ce moment-là, oui, j'étais une jeune, considérée jeune. Je me souviens même certaines anecdotes là, au centre d'exposition dans mes débuts, là, qui demandaient à parler au patron. Ben c'est moi. Ouais, là, il pensait que je niaisais, mais bon. c'est ça. Mais maintenant, pour vrai, maintenant, actuellement, je ne suis vraiment pas dans les plus jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, là, dans fin vingtaine, qui sont dans le domaine là, de la muséologie au Québec.
Ça bouge, c'est actif, puis il y a de la place, il y a de l'ouvrage.
Il y a beaucoup de départs à la retraite aussi, tu sais, qui s'en viennent. Il y a beaucoup de... En ce moment, dans les régions, il y a quand même une pénurie. Fait que dans un sens, tu sais, pour avoir... pour connaître des collègues qui partent à la retraite puis se disent « Ouais, je sais pas c'est qui va prendre la relève. On affiche le poste. » Tu sais, fait que c'est vraiment peut-être même en région un peu plus éloignée. Mais c'est ça. Tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, il suffit d'un emploi. Ben, il y en a plein qui sont disponibles. T'sais. Fait que ça amène une... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a même plus de possibilités que... qu'à l'époque.
Qu'à l'époque. C'est bon. Puis aujourd'hui, donc, ton rôle là, principal, tu le définirais comment là, à travers toutes les tâches que tu as nommées tantôt? C'est un gros...
Oui, c'est ça. Bien, le principal, c'est quasiment les sous-titres là, que je vous ai donnés. C'est sûr que ben, je gère une équipe sur qui je peux compter pour des projets, autant dans nos lieux que sur le territoire. Je pense que, puis un peu comme je disais aussi tantôt, le rôle de mettre en valeur le travail des artistes, fait que, c'est oui de le faire en salle, avec les expos. Mais la possibilité de le faire par des projets temporaires, éphémères, même permanents sur le territoire. Fait que c'est un peu ce que tu disais au début de l'entrevue. Tu sais, des fois, on va passer à côté d'une œuvre, mais tu sais, moi, dans le fond, je suis dans l'arrière-scène qui a permis la réalisation ou l'installation de cette œuvre-là, tu sais, qui a fait
en sorte que... Est-ce que tu as des exemples? Des exemples à Trois-Rivières qu'on peut avoir en tête, là, qu'on aurait pu croiser ou...
par Champlain, il y a peut-être 2 ans, on a eu avec Humanorium, c'est une fête foraine. Ça, c'est une initiative qui venait de Québec. Ça s'est passé au Parc Champlain là, le temps d'une dizaine de jours. Dans les œuvres plus permanentes, ben en fait, je vous dirais toutes les œuvres d'art qu'il y a sur le territoire de la ville, qui appartiennent à la ville, là, fait que c'est la majorité. Mettons exemple, celles que vous avez au Cégep, ben là, non, parce que ça appartient au Cégep. Que ce soit des monuments plus historiques, ben les monuments historiques, moi, je vais être comme en arrière-scène pour juste m'assurer qu'ils sont en bon état, un peu. Okay. M'assurer qu'ils ne sont pas en train d'être vraiment en mauvais état et qu'on ne pourra plus les conserver. Quand il y a des nouveaux bâtiments ou des rénovations de bâtiments qui appartiennent à la ville, on a le processus du 1% avec le ministère de la Culture, qui est une politique. Avec la politique du 1%, moi, je fais toujours le lien entre le propriétaire, donc la ville, et l'artiste. Pour assurer que l'œuvre va être à la bonne place au bon moment. Fait que un exemple concret qui s'en vient, ben le 1% du Colisée, du nouveau Colisée.
Oui, effectivement.
Oui, ça en est un. Récemment, l'été passé, la murale au centre-ville. Ensuite, si on pense, mettons, devant l'espace Pauline Julien, il y a une œuvre d'Elisabeth Mathieu. Cette œuvre-là, l'été, c'est une œuvre commémorative pour Trois-Rivières, capitale culturelle du Canada. Donc, c'est un concours qu'on a fait là, en lien avec ça. Je pense à l'amphithéâtre, le 1% de l'amphithéâtre. Je pense ultimement le 1% de Trois-Rivières-Saint-Laurent. Tu sais, il y a comme plein en projet d'art public, mettons, qu'on soit, si on dit permanent, là, dans les dernières années, il y en a plus de... On est proche d'une trentaine.
Ouais, quand même. Puis tu jumelles ça à des expos qu'on pourrait dire plus pointu peut-être, là, tu sais, en salle, en centre d'expo, avec une volonté peut-être plus près, je sais pas comment le dire, je veux pas me mettre les pieds dans les plats, mais en même temps, tu sais, où il y a un travail de représenter un artiste ou une exposition ou quelque chose comme ça, qui demande une approche différente, je pense, probablement qu'en art public. Est-ce qu'il y a aussi des bons coups que vous avez eus là, dans les dernières années, entre autres à Raymond?
Oui. Dans le fond, pour les expos en salle, ben, tu sais, moi, j'assure un peu la direction artistique des deux lieux que je gère. Mais il y a une équipe avec moi, évidemment.
Ouais.
Donc, chaque lieu a sa mission et son mandat. Donc, les expositions doivent être en lien avec la mission et les mandats des deux institutions. Fait que si on pense au centre d'exposition Raymond Lanier, un des plus gros coups, je vais le dire comme ça, c'est de recevoir l'exposition, ben, que Marc Séguin vienne exposer chez moi.
Oui, chez toi directement, idéalement.
Oui, j'aimerais ça, mais en tout cas. Puis tu sais, ça a commencé il y a quelques années un peu on a eu une exposition avec le Musée d'art contemporain de Montréal, une exposition itinérante. Qui était l'abstraction des années 60 jusqu'à aujourd'hui.
Oui, ça a été un gros coup, ça, quand même. Là,
vraiment un gros coup parce que il y avait des grands noms là-dedans, dont Bordua. Je vais vous faire une anecdote, là, mais tu sais, un peu, des fois, on se dit, mon Dieu, tout est dans tout, mais c'est vraiment bizarre. Il y a une des œuvres dans l'expo, tu sais, quand on est venu le temps de l'accrocher, moi, je dis, c'est moi qui l'accroche. Comme, fallait que j'y touche avec des gants, bien évidemment.
Ouais,
dans le respect. Mais cette œuvre-là, je me souvenais clairement qu'au bac en histoire de l'art, j'avais eu un examen sur cette œuvre-là, mais là, je la tenais dans mes mains. T'sais, je l'avais vue au Musée d'art contemporain de Montréal, de la voir en vrai, OK, mais là, elle était chez nous, là!
Oui, elle t'appartenait, là!
Ouais. C'est vraiment des émotions aussi d'avoir un contact avec des œuvres qu'on pensait jamais. C'est comme, ça a été un premier grand coup pour le Centre d'Expo pour avoir après ça, là, on a eu après ça Marcel Barbeau avec le Musée d'art de Joliette. Il faut comprendre qu'un centre d'exposition puis un musée d'art, tu sais, des fois, on n'a pas les mêmes, tout à fait les mêmes objectifs, mais le Centre d'Expo doit être dans les conditions comme si on était dans un musée d'art au niveau de la conservation, au niveau des normes et tout ça. Fait que ça nous a permis d'amener le centre d'exposition aux normes, aux mêmes normes qu'un musée d'art, ce qui nous amène plein de possibilités. Donc là, ben, on a d'autres. On essaie de faire une programmation au centre d'exposition Raymond Lanier pour, au niveau de la démocratisation de l'art contemporain puis de l'art actuel, essayer de faire découvrir différents artistes, différents médiums aussi au public, puis permettre à ces gens-là d'avoir un contact avec ces expos-là et ces artistes-là sans se déplacer dans une autre ville. Et pour l'espace Pauline Julien, dans le fond, moi, je gère ce lieu-là depuis 2018. À l'intérieur de Culture Trois-Rivières, on a changé sa vocation, ce qui fait qu'on l'a tourné quand on m'a dit que j'avais la gestion. Je voulais pas dédoubler le mandat et la mission de Raymond Lanier. Donc, pour l'espace Pauline Julien, on l'a vraiment axé vers les arts médiatiques et les arts numériques. Donc, on développe ce volet-là de plus en plus, puis dans l'optique encore, bien, de donner accès, démocratiser, mais à des expériences aussi, puis un peu initier tout le travail qu'il peut avoir en arrière de ça au niveau du numérique pour les artistes.
Mais, tu sais, Marie-André, quand on t'écoute, là, ce qu'on voit, c'est que tu as une responsabilité qui est touche à tout et qui est aussi pluridisciplinaire que ce que tu as acquis au lac comme approche, tu sais, de toucher un paquet de choses, autant valoriser la culture régionale, essayer d'avoir aussi tu sais, des artistes plus établis, puis de bâtir une crédibilité aussi autour de notre culture régionale, de nos institutions, etc. C'est intéressant, puis ben, c'est dommage, évidemment, que l'expo sur Marc Séguin... J'ai mis mon T-shirt, t'avais-tu vu? Je sais pas si tu voyais de loin. J'ai mis mon T-shirt de Marc Séguin pour te faire plaisir. Mais en même temps, te faire plaisir, mais il doit avoir... ça doit être un peu doux-amer, là. Ça doit être un peu aigre-doux comme moment à cause de la COVID, justement, que ça a été reporté. Ça aurait été, c'est sûr, un gros coup pour
la ville. Ça va être un gros coup quand on va pouvoir... Ça va rester un gros coup. Ouais. C'est sûr que dans la dernière année, on a eu beaucoup de... Je dirais pas des deuils, parce que tout ce qu'on avait comme projet, on a réussi à le reporter. Fait que je dirais plus qu'on a géré les déceptions, tu sais, de pas pouvoir le faire tout de suite, de penser que tu arrives à la ligne, tu sais, mais que non, reporter. C'est arrivé avec plusieurs artistes. Puis il y a des expos, là, que moi, j'ai vraiment hâte, tu sais, de présenter, entre autres, une exposition de Ludovic Bonnet. C'est magique comme expérience, c'est hallucinant, dans le sens que ça nous fait vivre des souvenirs, puis c'est vraiment une expérience vraiment chouette. T'sais, moi, je suis sortie de l'expo, quand je l'ai visitée, là, je criais, là, genre... Bon, fait que, ça vous donne une idée. Puis l'artiste était là, puis là, il m'avait dit, « C'est là, finalement, que tu veux aller, mon ami? » Puis là, ma deuxième réflexion a été, « Ah ouais, mais tu penses que ça rentre? » Parce que là, c'est ça, des fois, pour doser. Tu sais, je pense que aussi avec la période du cégep, tu sais, avec la multitude de projets, d'inspiration qu'on peut avoir, d'idées qu'on veut concrétiser, les cours, le travail, le ci, le ça amène à apprendre à jouer, hein, avec plein d'affaires, plein de projets, plein de deadlines à planifier. Fait que, tu sais, moi, ça, je pense que ça l'a forgé un peu ma base aussi. T'sais, je me souviens d'avoir dit, à un moment donné, dans la période du cégep, de dire, ben moi, j'en ai pas trop des projets. C'est quand j'en ai beaucoup que tout est capable de se mettre en place puis que je suis capable de... T'sais, que je, t'sais, s'il y en a juste un à faire, ben c'est tout ensemble qui amène un peu le je vais dire le gaz pour...
Ouais, ça, c'est sûr que t'en as du gaz, ça c'est certain, pour te voir aller dans les dernières années. J'ai effectivement hâte de voir l'expo sur Marc Séguin, surtout que Maxime, oui, à mes côtés, est une spécialiste de Marc Séguin déjà, travaillé là-dessus puis tout, fait que j'ai hâte de voir ça, on va te l'envoyer, là. On va te prêter, oui, son savoir.
C'est sûr.
Ben voilà, Maxime, je ne sais pas si tu as une dernière question pour Marie-André ou quoi que ce soit.
Ben pas tant une question, mais plus un commentaire. Je trouve, même moi, en écoutant, là, je trouve ça vraiment inspirant parce que, ben étant une étudiante dans le domaine de l'art, là, je trouve ça vraiment inspirant d'avoir un exemple concret que ça peut marcher, ça peut arriver. Puis vraiment, là, je trouve que c'est un super bel exemple qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est plutôt ça mon commentaire, puis surtout que ça vient directement là, du cégep où je suis en ce moment, exactement les mêmes endroits. Là. Fait que moi, ça, en tout cas, moi, ça me donne un peu confiance en l'avenir parce que moi, j'en ai pas un parcours aussi bien planifié pour l'instant, mais c'est inspirant. Voilà.
Ah, mais merci, c'est gentil.
Merci beaucoup, Marie-André, oui, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Pour ce podcast-là, c'était vraiment inspirant, puis de voir justement ton parcours qui avance toujours avec une énergie intense, puis c'est le fun de voir ça parce que derrière ça, il y a une passion, puis qui était là dès ta première semaine de cours, hein, il faut le dire. Fait que je t'imagine aussi sortir de ton premier cours quasiment avec les mêmes les baguettes en l'air en train de dire « je l'ai trouvé » puis tout ça. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps, c'était super agréable de jaser avec toi.
Oui, merci.
Merci pour ce retour dans le
temps. C'est bon, on se recroise bientôt. Bye bye.